Retrouvez 16 Gaou et ses invités dans le Club de la Presse tous les jours de lundi au vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, oui, je suis d'accord. Mais j'ai dit pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Nous sommes au vendredi, premier jour du mois de septembre pour le compte de cette année de grâce 2023. Il sonne 11h, passé de quelques instants, et nous vous savons très nombreux à l'écoute alors de la nouvelle génération pour suivre cette émission Club de la Presse. Club de la Presse, c'est avec Thomas Dattévi à la technique et Jérôme Dakoucha sur la mise en ligne alors de cette émission. Je suis au micro, Pascal Lossou. Et comme vous le savez bien, vous pouvez suivre cette émission partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Aného, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Nous pouvons, ou bien vous pouvez également alors nous suivre partout dans le monde entier à travers nos différentes plateformes numériques et aussi sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez bien, c'est le commentaire, l'analyse et aussi le décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et justement, c'est avec alors nos confrères journalistes en studio et aussi des invités sur le plateau avec moi, journaliste en studio, Napokoura Francisco, bonjour.
Oui, bonjour cher Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM La Nouvelle Génération.
Habitué des vendredis, vous vous sentez très bien même d'ailleurs dans
oui,
ce studio.
Ça va, ça va. C'est chez moi d'ailleurs.
Justement, c'est chez vous. Alors, nous avons des invités aussi avec nous ce matin. Il y a monsieur Aklenkpo, Pascal, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Canal FM.
Vous êtes alors le porte-parole de l'association Cercle de Réflexion pour l'épanouissement des peuples crêpes.
Évidemment.
Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de votre président. Je voudrais parler alors du président de cette association, c'est monsieur Akwete Kankwe. Monsieur Akwete, bonjour.
Bonjour monsieur Pascal, bonjour aux fidèles auditeurs de radio Canal FM et auditrices surtout.
J'espère que vous allez bien.
On va très bien.
Alors, nous allons parler de cette association, Cercle de Réflexion pour l'épanouissement des peuples. D'abord, Pascal Aklenkpo, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé d'abord la mise en place alors de cette association?
Alors, merci beaucoup pour la question. Nous sommes des jeunes, on a l'habitude de causer souvent ensemble, de réfléchir, et on se dit, comment pourrons-nous apporter une pierre à l'édifice de cette nation, à l'avancement ou développement de notre pays. On est parti de plusieurs constats. Aujourd'hui, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes qui versent dans la dépravation, qui sont dans la déviance totale, qui organisent ce qu'on appelle des clashs, qui s'insultent à tout va, qui s'attaquent aussi à ceux qui font des choses louables pour l'évolution de ce pays. Ils s'attaquent aux leaders, aux journalistes, on insulte tout le monde, on s'est dit non. Nous allons changer cette tendance-là et on a réfléchi et on a créé le cercle de réflexion pour l'épanouissement des peuples pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et pour promouvoir également les droits et devoirs citoyens. Le 17 août dernier, nous avions effectué notre lancement au centre communautaire de Baie et nous avons proposé un grand projet d'envergure qui va permettre au pays d'avancer, aux citoyens et citoyens également de s'épanouir, à la jeunesse de sortir du sous-emploi ou même du chômage. Voilà les idées qui nous ont animés et qui nous ont conduits à créer cette association.
Monsieur Akoté, comment ce travail d'épanouissement ou d'amélioration des conditions de vie des jeunes et autres se fera?
Oui, ce travail se fera d'une manière que nous, les jeunes, nous devons prendre conscience d'abord de la chose. Si nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes, nous ne pouvons pas sortir de cette pauvreté-là. Donc, il nous revient maintenant de travailler. Et travailler comment? Il ne suffit pas de travailler pour travailler. Nous avons proposé beaucoup de choses au pouvoir public. Et ces choses-là vont permettre maintenant à des millions d'êtres togolais de trouver d'emploi, de quitter le sous-emploi, les émigrants et autres là, pour trouver un emploi concret. Hein? C'est-à-dire vivre de son activité.
Un emploi digne de son nom.
De son nom. Donc, nous sommes là juste pour
accompagner.
Accompagner le pouvoir et le côté là, quitter les réseaux sociaux à longueur de journée, insulter les leaders, faire ceci, cela, celui-ci fait l'autre, on critique, on fait. Nous, c'est fini. Ce que nous allons faire,
c'est de proposer
des solutions aux problèmes que nous avons. Nous, la jeunesse, nous avons, nous-mêmes, nous avons la solution même à nos problèmes. Vous voyez.
Voilà.
Oui, Pascal. Je vais apporter un peu de l'eau au moulin du président. Il a parlé tout à l'heure de deux projets. Lors du lancement, nous avons annoncé un projet d'envergure. Nous avons proposé la création de pôles agro-pastoraux, donc projet pôle agro-pastoraux du Togo. Il y a des initiatives déjà, il y a beaucoup d'éleveurs qui sont sur le terrain, dans nos villages et même dans les villes, mais on a fait un constat. Lorsque nous avons envie de manger ou bien de déguster une sauce poulet, la première idée qui nous vient en tête, c'est d'aller dans la boutique du coin pour acheter le congelé. Alors que nous savons que tous ces produits congelés-là nous viennent d'ailleurs, sont des produits importés. Ça veut dire que le travail qui est fait sur le terrain n'arrive pas à combler la demande nationale. Au même moment, il y a les jeunes qui sont au chômage, qui sont des bras valides, qui sont prêts à travailler et donc nous avons proposé qu'il y ait quelque chose de bien organisé. Alors, on a parlé de villes nouvelles carrément ou de villages nouveaux qui seront consacrés essentiellement à la production et à la transformation de la volaille. Maintenant, les expériences qui existent déjà sur le terrain, nous avons dit qu'ils seront mis à contribution pour que ces sites-là soient dédiés totalement et entièrement à cette activité. Alors, il y aura la création des logements de type cité, pouvoir abriter les travailleurs qui seront des compétences locales. On l'a dit, il y a des jeunes qui sortent de l'université, qui ont étudié l'agronomie et autres, mais qui sont au chômage ou bien qui veulent rester dans les bureaux. Il faut qu'on les mette au travail, ils ont la compétence nécessaire. Alors, les travailleurs seront des permanents ou bien des saisonniers également. Ça peut être des jeunes étudiants, écoliers qui veulent aller travailler un peu pour gagner de l'argent. Et là, on parle d'une zone qui sera desservie en électricité, en voie goudronnée pour l'acheminement des produits. Je parle donc des poulets de chair. Cela va permettre dans un premier temps de satisfaire la demande nationale en poulets bio, de qualité et à terme, ça va permettre au Togo d'être un pôle dans la sous-région parce que nous avons les mêmes problèmes un peu partout. Dans les autres pays, ce sont les produits importés, congelés, qui viennent chez nous, dont la qualité est douteuse. Les nutritionnistes nous le disent très souvent. Et on a réfléchi, voilà le projet que nous avons lancé. On l'a proposé donc au pouvoir public, mais aussi aux investisseurs privés. Il y a des gens qui ont les moyens financiers, mais préfèrent les garder en banque, alors qu'en banque, vous n'avez pas quelque chose à gagner, in fine. Mais en investissant, vous permettez donc à la jeunesse de trouver de l'emploi, mais vous permettez également au pays d'avancer et en même temps, vous-même, vous gagnez de l'argent. Et donc, on a plusieurs projets de ce genre que nous allons proposer. C'est un cercle de réflexion, donc c'est un laboratoire d'idées. Régulièrement, nous allons sortir Mais on n'est pas que dans la réflexion, on est également dans l'action. Et nous-mêmes, nous allons initier ce projet de taille réduite à Anamé. C'est dans la préfecture des Lacs que nous sommes déjà sur les tractations. On est en de très bons termes avec le chef de ce village. Et nous-mêmes, nous allons travailler ensemble. On a proposé aussi un concept, le crowdfunding. C'est le financement participatif. Et là, on demande aux populations de s'impliquer. C'est-à-dire avec de petits moyens, quand on se regroupe et qu'on met ensemble les moyens, on peut réaliser de grandes choses. Il y a de tels projets déjà dans nos villages, les Adakavi et autres. Donc, nous proposons une modernisation de ça. C'est une sorte d'actionnariat, actionnariat populaire pour réaliser ces grands projets. Donc, nous-mêmes, nous allons initier cela. Et à la fin du premier semestre 2024, notre petit projet verra le jour et on transformera le poulet sur place parce qu'il y a des jeunes qui sont très brillants, qui créent de petites machines. Parce que là, on parle d'un grand projet. Quand on parle de pôle agro-pastoraux, il y aura des unités de transformation. Voilà. Et voilà la nourriture, c'est-à-dire la provende qui servira à la croissance de la volaille sera produite également sur place. Et alors, il y aura de grands champs et... vous voyez, c'est une chaîne économique qui sera créée. Au même moment, il y aura du business pour nos mamans, pour nos jeunes et autres. Et voilà, à peu près.
Et oui, parce que c'est beau ce que vous dites et c'est ce que nous souhaitons tous ensemble, bien évidemment, pour l'épanouissement même d'ailleurs de la population. Mais, monsieur, à côté, finalement, quels sont les moyens dont vous disposez pour réaliser ces réflexions très, très belles même d'ailleurs que vous menez?
Bon, en fait, nous n'avons pas assez de moyens. Hein. Nous ne comptons pas sur nos propres moyens, mais nous comptons sur le moyen public. C'est-à-dire, c'est une proposition que nous faisons à l'endroit des pouvoirs publics. Ce projet, ce n'est pas un projet que quelqu'un peut mettre seulement la main dans la poche et commencer par le réaliser. Donc, ce que nous demandons ici, c'est... Lorsque les hommes de bonne volonté, c'est-à-dire ceux-là qui ont les moyens...
Et les investisseurs,
vous voulez dire. Oui, les investisseurs, s'ils peuvent nous entendre et comprendre ce que nous disons, je pense que ce serait facile à réaliser. Ce serait facile à réaliser. Il suffit de nous accompagner. Nous avons proposé cela, ce n'est pas que c'est nous-mêmes qui allons... réaliser ou bien prendre devant de la chose. C'est juste une idée que nous mettons en place. Mais à côté, il y a des petits projets que nous pouvons nous-mêmes commencer par réaliser.
Tout à fait.
Il l'a dit tout à l'heure, nous irons dans la préfecture des Lacs et les mois à venir pour voir la faisabilité de ces petits projets-là. Il y a aussi d'autres choses que nous faisons pour accompagner la population, surtout les jeunes qui sont là, qui ne trouvent pas à faire. Nous sommes avec eux en réflexion. Nous leur proposons ce qu'il faut faire pour quitter de leur précarité, pour pouvoir trouver quelque chose de concret à faire. Quitter surtout les réseaux sociaux à longueur de journée pour insulter, trouver 200 pays crédits juste pour faire des racontailles autres là. Non, nous pensons que ce n'est pas la bonne chose, mais aujourd'hui la bonne chose c'est de trouver à faire quelque chose, faire valoir de son homme quoi.
Ouais. Vous insistez sur le fait que les jeunes sont aujourd'hui beaucoup hein, plus sur les réseaux sociaux et à longueur de journée, ce sont des gens qui alors s'insuitent ou du moins s'il y a beaucoup de choses qui se passent alors sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, je ne sais pas trop comment vous ferez ce travail alors de, je ne sais pas si ça passerait par une sensibilisation. Pascal, comment vous allez le faire?
Alors. Il y aura beaucoup de sensibilisation. Nous organiserons également des conférences, débats. La fois passée, lors du lancement, il y a eu un échange lorsque nous présentions le projet. Et donc, il y aura des échanges de ce genre. Les réseaux sociaux ne sont pas une mauvaise chose en soi. Parce qu'on apprend également sur les réseaux sociaux. L'émission que nous sommes en train de réaliser là maintenant est suivie par des milliers, des millions même de personnes à travers le monde entier grâce aux médias sociaux. On apprend aussi de nouvelles choses. Moi, je regarde régulièrement des vidéos sur l'entrepreneuriat, des vidéos sur la motivation, le développement personnel. Il y a beaucoup de bonnes choses là-dessus. Là, nous parlons d'une utilisation à bon escient de ces réseaux sociaux. Mmh. On peut apprendre là-bas. Maintenant, il ne faut pas passer tout le temps sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont que connectés toute la journée et là, en train de surfer sur TikTok, sur Facebook, il y en a tellement aujourd'hui. Et donc, c'est de ça qu'il est question. Alors, la sensibilisation sera notre cheval de bataille. Nous travaillons également en groupe avec les jeunes. De toute façon, nous privilégions les contacts directs avec les jeunes dans nos quartiers. On a de petits cercles de discussion où on les emmène à parler de la nation, de ce qui peut amener très loin notre pays, plutôt que d'être dans l'oisiveté et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que nous réalisons déjà à travers les petites discussions. Vous savez, dans nos quartiers, il y a des coins où on joue au ludo, à la dame et autres. Ce sont des endroits que nous visitons juste pour engager des discussions avec les jeunes. Et nous pensons qu'avec cette approche, vraiment, le Togo pourra connaître de lendemain meilleur. Parce que la jeunesse, c'est la relève de demain. Mm. Si la jeunesse d'aujourd'hui n'est occupée que pour des choses futiles sur les réseaux sociaux, eh bien, qui sera le prochain dirigeant ou bien qui feront partie des leaders de demain pour notre nation? Voilà ce qui nous préoccupe. Et à travers la sensibilisation, à travers les autres moyens dont j'ai parlé, nous arriverons à toucher le cœur des jeunes. Il y a des jeunes brillants, des jeunes qui font de très belles choses. Nous les encourageons, nous les félicitons dans tous les domaines. Hein. Dans les médias, vous êtes très jeunes. Oui, un journaliste, il y en a plusieurs. Des artistes, des travailleurs. Donc, ce sont des modèles que les jeunes doivent suivre. Ceux qui font de bonnes choses, il faut les suivre pour que notre Togo soit... C'est un pays que nous aimons tous, mais que ce pays ne sombre pas dans la dépravation dans les années à venir.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Akoté. Finalement, si vous avez un appel à lancer aux jeunes qui nous écoutent, puisque c'est la cible principale, si vous avez un appel à leur lancer, qu'est-ce que vous allez leur dire?
Bon, aux jeunes, comme nous, on leur demande seulement de se ressaisir. Que le travail, il faut le chercher. Et aussi, on peut aussi créer son propre travail. Donc, c'est dans cette optique que nous voudrons leur adresser le message d'être à l'écoute. Dans les jours à venir, nous allons leur appeler. Nous allons appeler beaucoup de jeunes. Et nous allons animer des sensibilisations. Qu'ils viennent nous écouter. Qu'ils viennent aussi et apporter leur contribution. Nous avons besoin de leurs idées aussi. Peut-être ils ont de belles idées et ils ne veulent pas partager avec les gens. Et on les voit comme c'est des gens qui ne valent rien. Mais en réalité, peut-être si on les accompagne avec les idées qu'ils ont, peut-être il y aura de l'amélioration et on verra que des gens vont quitter de nulle part ou rester à la bonne place qu'il
justement
faut. Donc c'est des choses comme ça là que nous voulons pour eux. Mais je voudrais encore profiter de l'occasion pour lancer un appel, puisque bientôt la rentrée, nous sommes actuellement sur le terrain pour commencer par partager les kits scolaires et autres là aux enfants.
Et ça aussi, ça fait partie de l'épanouissement de ces enfants.
Oui, c'est le credo même de notre association. Donc, les enfants démunis qui n'ont rien, nous, actuellement, nous aimerons aller en leur aide, en leur apportant les kits scolaires et tout ce que les gens ont trouvé. Si vous avez des cahiers, vous pouvez nous faire appel. On viendra, on prend et on va leur remettre. Quand on remet ces kits aux enfants, vous allez voir que c'est la joie que les enfants auront, c'est la joie les parents qui sont à la maison actuellement, vous voyez l'état dans lequel nous vivons tous. Donc si quelqu'un n'attendait pas un cahier de 100 pages chez vous, et bizarrement, vous venez, vous lui remettez un cahier de 200 pages par exemple, il serait en joie.
Tout à fait.
Donc nous voulons construire notre pays en faisant ces genres de choses-là dans cette rentrée.
Voilà, c'est cet ensemble que nous allons construire notre pays, surtout que chacun fasse alors sa part, comme le disait quelqu'un. Alors, Pascal, un mot à l'endroit alors de la population et aussi surtout les jeunes.
Oui, aux jeunes enfants d'abord, comme le président l'a dit, nous irons à les soutenir en début septembre. C'est une action que nous réalisions déjà avant même la création du CREP. On était sur le terrain en, en début de chaque année, ou avant chaque, le début de chaque année académique pour soutenir certains élèves. Cette année, nous avons choisi la préfecture des Lacs et la commune du Golfe 1 pour mener ces actions. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous allons faire ce que nous pouvons avec nos propres moyens. Nous disposons déjà des lots de cahiers et également des livres avec nous que nous distribuerons aux élèves. Et donc, c'est l'occasion pour nous, ceux qui veulent soutenir des enfants, mais n'ont pas toujours su comment procéder, ils peuvent approcher le cercle de réflexion pour l'épanouissement des peuples et nous nous chargerons d'apporter cette aide-là aux enfants. Aux jeunes, nous demandons d'être courageux. C'est vrai, c'est difficile, les temps sont difficiles, on le dit, mais nous devons être résilients. Il y a toujours des opportunités qu'on peut trouver. Il suffit d'être concentré, de se donner à la réflexion. On peut entreprendre et nous, nous proposons tout ça. Et à travers des réflexions, des discussions, on peut savoir que oui, c'est difficile, mais il y a des gens qui s'en sortent et pourquoi pas nous. Donc, soyons confiants. Voilà. Ne blâmons pas tout le monde. Nous aussi, nous avons notre partition à jouer. Oui. C'est très important pour l'évolution de notre pays.
C'est très important pour le développement alors de notre pays. Merci à Pascal, à vous Pascal, à Quimpor, alors d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'association Cercle de réflexion pour l'épanouissement des peuples. Et vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné alors de votre président ou du président de l'association, Monsieur Akwete Kankwe. Merci à vous. Toutefois, vous restez avec nous, puisque déjà à midi, à 12h, les uns et les autres pourront rentrer en ligne pour vous poser des questions concernant alors tout ce que vous avez dit sur l'association. Alors,
d'accord.
Voilà. Nous revenons alors à nos confrères, un journaliste ici sur le plateau. Alors, Francisco, rebonjour.
Oui, rebonjour. Aux auditeurs.
Vous avez écouté nos amis. On a besoin vraiment de ces gens d'initiative pour faire évoluer notre pays.
Oui, c'est vrai, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Ils ont évoqué, par exemple, le problème d'alimentation, où on adore plus ce qui vient de l'étranger. Et, bon, ce n'est pas aussi forcément parce que ça vient de l'étranger que les gens adorent, mais c'est parce que c'est beaucoup moins cher par rapport à ce que nous produisons. Et ici, il y a cet aspect qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, il faut voir aussi, lorsque un pays décide de se développer, il y a un minimum de protectionnisme. Et vous souvenez, nous avons beaucoup abordé le cas, par exemple, des poissons qui sont importés, qui ont même des valeurs cassées, et même la douane, disons, à bas prix, mais alors que nous avons des gens qui souffrent sur le terrain, qui élèvent suffisamment, et mais ces poissons vont encore plus vers l'extérieur qu'à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, on ne protège pas les choses. Vous allez dans nos villages, je me rappelle la semaine dernière, j'étais encore dans un village, et je regarde pratiquement tous les jeunes. Bon, eux, ils ont pris l'aspect réseaux sociaux, mais j'ai regardé la physionomie des jeunes, je vois les formes, ceux-là qui a 2 ans, 3 ans, qui étaient solides. Je crois que Agbenge, Sourabi, est en train de tout tuer.
Et surtout briser leur avenir.
Non, mais c'est en train de finir. Et je me demande, je me disais, mais qui seront les populations de ce village-là à l'horizon, peut-être dans 10, 20 ans. Parce que quand on fait le décompte, fait le recensement, par exemple, tous ceux qui sont morts il y a 10, 20 ans, des jeunes, quand vous les voyez, vous sentez que non, que ce n'est plus ça. Donc, il va falloir que véritablement des initiatives comme ça viennent et que également l'État fasse sa part. Je dis souvent, au niveau de l'État, on ne demande pas de l'aumône. On demande à l'État de faire son travail, de mettre en place des infrastructures qu'il faut, d'accord ? Et sur le plan agricole, il y a beaucoup de choses à faire. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Aujourd'hui, un pauvre ne peut plus cultiver. Un pauvre ne peut plus cultiver. C'est l'agriculture de subsistance, un petit carré, moins d'un hectare. ce n'est pas l'agriculture, ça, c'est le jardin. Donc, pour qu'on aille véritablement vers l'agriculture, la transformation structurelle, il faudrait que l'État arrive à aider les populations à dessoucher les sols. Et pour que les tracteurs, la mécanisation agricole, il y a un travail qu'il faut faire avant que les tracteurs ne travaillent. Et aussi, vous voyez, bientôt vous allez voir, la pluie est en train de cesser. Donc, tous nos champs vont se sécher. Et quand les feux de bouche vont arriver, ça va passer dedans. Vous n'avez pas quelque chose, même pas de bouche d'eau pour pouvoir éteindre les feux. Donc, alors qu'on peut aussi faire des forages, dans ça, après avoir dessouché et permettre que les tracteurs passent, on peut avoir des forages qui permettent non seulement d'arroser les champs, mais aussi de faire face aux feux de bouche lorsque la saison cherche ma vie. Donc, il y a beaucoup de choses.
Voilà, Francisco, il y a beaucoup de choses et vous l'avez dit tout de suite qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, surtout au niveau alors des jeunes. Et vous évoquiez même d'ailleurs ces problèmes, mais un problème également au niveau alors de recrutement, au niveau surtout de la fonction publique. Vous évoquez aussi cela ce matin dans votre journal à la une. Alors du journal, vous titrez Togo quand une bande de vautours gravite autour des concours de recrutement dans la fonction publique. Fogna Simbé est-il au courant? Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement?
Oui, vous voyez, depuis un moment, il y a l'État fait l'effort d'organiser des concours de recrutement, mais on a constaté que d'année en année, de concours en concours, ce n'est plus, comme l'avait dit un ministre, en face de sa population pour dire que il faut amener les noms quelque part pour faire pour que les candidats soient admis. Mais ici maintenant, c'est que il y a des gens qui sont organisés. D'abord, pour garantir votre place, votre nom sur la ligne, il faut soit payer 100 000 ou 200 000 pour aller au concours et être assuré d'être admis, il faut payer 500 000, ça va jusqu'à 1 million. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le concours de recrutement dans la fonction publique, ça. Vous imaginez quelqu'un qui est en train, qui souffre.
Et qui normalement devait se faire même gratuitement.
Voilà. Non seulement pour la composition des dossiers, vous êtes déjà entre 15 et 20 000, d'accord? Et voilà que pour passer le concours, il y a des fonctionnaires encore qui se sont organisés en réseau et qui réclament de l'argent aux chômeurs. Et donc, vous imaginez, si vous arrivez à payer 1 million, vous trouvez un travail, ça fait un crédit peut-être de 2 ans, c'est-à-dire que anticipation sur le revenu. Et au-delà, nous avons également, tout dernièrement, pour le concours de la santé, les concours de la santé qui sont lancés, nous avons eu également écho que les gens réclament l'espoir de l'argent avant que des candidats ne soient retenus ou être admis. Et là aussi, nous avons, pour sortir ce dossier, nous avons écrit au ministre de la fonction publique qui n'a pas encore répondu, mais que il y a des concours, je crois 3 ou 4 concours qui sont restés, que les résultats ne sont pas encore proclamés et jusqu'alors. Et lorsqu'on lance un nouveau concours, ceux qui avaient passé l'ancien concours, dont les résultats ne sont pas sortis, retournent encore pour composer. Alors qu'on pouvait faire économie en donnant déjà les résultats des concours antérieurs avant d'organiser de nouveaux concours. Donc nous sommes posé la question si le chef de l'État, Fornia Singbe, est au courant que c'est comme ça que les fonctionnaires ou des bandes organisées, n'est-ce pas, soutirent de l'argent à nos pauvres populations avant de participer au concours.
J'aimerais parler bonjour. Déjà, quand on écoute alors notre confrère avec ce dossier qu'il a rédigé sur ce dysfonctionnement au niveau alors des concours dans la fonction publique, c'est grave de voir cette escroquerie autour même d'ailleurs du concours au niveau de l'État.
Assez de précision, donc en donnant des chiffres, je pense que, le connaissant, probablement qu'il a fait ses recoupements et il a ses preuves. Alors, si tel est le cas, je pense que la justice devrait s'auto-saisir de cette affaire pour fouiller, voir dans quel domaine particulièrement ça se fait. Parce qu'il n'y a pas de raison de parler de concours si certains peuvent acheter leur place déjà à ce concours. Et avant, on parlait de favoritisme, on parlait de militantisme, on parlait d'ethnicisme, on parlait de plusieurs choses. Et aujourd'hui, si les postes doivent se vendre au plus offrant, donc je pense que c'est inquiétant, surtout qu'on parle de concours. L'objectif, c'est de prendre les plus méritants. Et donc, les plus méritants ne sont pas forcément ceux qui ont de l'argent pour payer ou acheter. Et donc, je crois que si ce qu'ils révèlent est vrai, il faut que la justice s'en saisisse. Il faut que les ministères concernés par les recrutements, donc les concours d'entrée dans la fonction publique aussi, s'en saisissent. Pour faire la lumière et que si ces personnes-là existent vraiment, qu'elles soient démasquées et puis mises hors d'état de nuire.
Olivier Adja, bonjour.
Bonjour.
Voilà, nous venons alors d'écouter notre confrère. Mais si on doit travailler dans la fonction publique et on doit payer avant d'avoir un pouce, je pense que c'est grave.
Oui, mais vous l'avez dit, c'est plus que grave parce que ça veut dire que les fonctions maintenant au Togo sont. On peut les. Monnayer. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est possible d'acheter un poste dans la fonction publique? Bien sûr, s'il y a des preuves qui peuvent être avancées en tant que citoyen, nous-mêmes, on peut porter plainte. D'accord? Parce que la loi nous le reconnaît aussi. Et aussi l'État ou bien de la justice, le procureur de la République se saisit. J'espère que cette affaire ne va pas s'arrêter à l'écrit d'un journal et dans ses colonnes. Ça doit aller au-delà. Parce que nous voulons construire un État où les chances, il y a égalité des chances entre
tout
les
à
citoyens.
Fait.
Où les plus nantis n'achètent pas ce que normalement devrait donc revenir à nous tous. D'accord? Et ça ne donne pas aussi une bonne image du pays à l'étranger s'il y a une pratique comme ça et certainement qui est ancrée ou installée. D'accord. Donc, c'est de l'intérêt même de l'État de se lever et de rechercher et donc ce réseau et de les mettre hors d'état de nuire. Vous savez, la plupart du temps, les autorités, les premières autorités du pays font l'effort pour que les choses marchent. Mais dans les sphères où il y a des gens qui ont été installés à un poste de décision, au lieu d'aller dans le sens de la politique que le chef de l'État et son gouvernement veulent installer, il rame en compte courant. Puisque ça, cet argent, on ne me dira pas que ça rentre dans la caisse de l'État. C'est quelqu'un qui a installé un système pour se remplir les poches. Et normalement, ces personnes doivent être punies et sévèrement pour décourager les apprentis sorciers qui veulent encore et perpétuer un système comme ça. Parce que l'impunité. En tout cas, les crimes se nourrissent plutôt de l'impunité. Et s'il ne faut pas laisser faire. Mais bon, maintenant, il n'y a qu'une seule condition, qu'on ait les preuves et qu'on puisse vérifier réellement si, voilà, donc tous les éléments sont réunis pour pouvoir faire des poursuites.
Des poursuites, justement. C'est important. Alors,
non, c'est vrai que non seulement nous avons interpellé le chef de l'État, Florian Singwe, nous sommes questionnés sur. Est-ce que nos enquêteurs travaillent bien? Que fait la justice? D'accord? Puisque nous avons écrit, adressé une lettre au ministre de la fonction publique, ça fait déjà plus d'un mois. On n'a pas reçu quand même de réponse. On a essayé de contacter, mais ça n'en est pas. Donc nous avons envoyé l'article, d'accord? Il appartient à ceux qui doivent travailler pour trouver les preuves, puisque ailleurs, nous avons eu également la confirmation de certaines autorités que, effectivement, elles sont au courant de ces pratiques. Donc, en fait, c'est pas un dossier jeté au hasard. C'est un travail vraiment fouillé.
C'est un travail vraiment fouillé. Nous avons quitté alors ce sujet pour parler du climat des affaires. Il y a beaucoup de journaux qui sont revenus sur le sujet, ce sujet économique ce matin. Il y a pour la patrie, l'Union qui titre à sa une ce matin, climat des affaires, le business relie relie en lieu et place à l'heure du doing business. Et l'éveil de la nation est aussi revenu sur le sujet. Le Togo parmi les 55 meilleurs États pour implémenter le BRELIE. Et aussi Togo Matin qui titre à ça une Banque mondiale, le Togo retenu dans la phase pilote du nouveau rapport BRELIE. Et aussi Togo Réveil, Germain, vous titrez à la une de votre journal ce matin, climat des affaires, le bon classement du Togo dans le nouveau rapport BRELIE. Alors, Germain, on doit se féliciter de ce que nous avons, nous sommes classés quand même parmi les meilleurs.
Oui, parmi les meilleurs de 2019 à 2020, je crois, si je ne me trompe pas, 2018 à 2019, le Togo avait fait un bond spectaculaire de 59 places au moment où c'était le rapport Doing Business. Et était classé le meilleur pays réformateur en Afrique. Donc vous voyez que le Togo a fait des efforts pour améliorer le climat des affaires et permettre des investissements, la création des emplois pour créer plus de richesses et de la création d'entreprises pour créer plus de richesses et des emplois. Et entre-temps, Doing Business a été mis sous éteignoir par la Banque mondiale, qui est l'institution qui essaie d'évaluer les pays par rapport à cet environnement des affaires. Et Doing Business revient maintenant sur une autre forme, beaucoup plus améliorée, qui vise aussi à mesurer l'impact des réformes là sur la société et la population. C'est vrai qu'on parle de Doing Business, après quel est l'impact, quel est le bénéfice réel. Et donc dans ce nouveau programme qui s'appelle Business Ready, le Togo est l'un des 55 pays pilotes dans le monde pour ce rapport-là. Et c'est le deuxième pays en Afrique, il n'y a que deux pays, la Côte d'Ivoire et le Togo. Et donc, le Togo figure donc dans cette liste restreinte de pays pilotes sur lesquels aujourd'hui la Banque mondiale table pour essayer de reprendre donc ces évaluations-là qui prennent la place de Doing Business et qui s'appelle aujourd'hui BRELIE, Business Ready. Donc, c'est une très bonne chose et on le constate tous les jours. Alors aujourd'hui, c'est très facile de créer une entreprise. Et aujourd'hui, l'une des plus grandes réformes au Togo, c'est la dématérialisation du tribunal du commerce. Et avant, par exemple, vous avez un litige commercial, parfois il faut attendre des mois pour pouvoir avoir le règlement de ces conflits-là aujourd'hui. Et grâce aux tribunaux virtuels, on peut, et à la dématérialisation donc du tribunal du commerce, on peut organiser un procès virtuel donc sur Internet et donc régler l'affaire dans les plus brefs délais. Donc c'est autant de réformes donc aujourd'hui qui valent au Togo cette reconnaissance de la Banque mondiale qui vise à évaluer l'environnement des affaires, parce que aujourd'hui, pour combattre la pauvreté, on est tous d'accord que c'est l'entrepreneuriat. Et quand on facilite aussi l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, l'arrivée des investisseurs, c'est qu'il faut que ça ait un impact sur les populations, et c'est aujourd'hui l'essence même de cette réforme au niveau de la Banque mondiale avec l'institution de BRELIE. Donc on ne peut que saluer le fait que le Togo figure donc parmi les 55 pays pilotes dans le monde dans lesquels cette évaluation là va démarrer.
Voilà, Olivier, c'est vrai que le Togo se figure parmi ces pays où l'économie est en train alors d'avancer. Mais est-ce que, comme j'aimerais poser la question tout de suite, est-ce que l'impact alors de cela sur la vie du citoyen ou de la société, est-ce que vous êtes en train de remarquer vraiment cet impact?
Non, il faut dire que ce que nous remarquons, c'est à deux niveaux. C'est-à-dire, l'État fait des efforts, ou le gouvernement fait des efforts, ou disons plutôt le Togo fait des efforts pour assainir donc son environnement économique ou du business avec les réformes donc pour, par rapport à la création des entreprises, par rapport à la facilité accordée et voilà aux promoteurs d'entreprises, aux opérateurs économiques. Il y a plein de choses qui sont faites et qui font que le Togo aujourd'hui est considéré comme un pays où l'environnement des affaires est plus intéressant. D'accord, donc ça c'est un élément qu'il faut noter et sont des éléments je crois structurels, hein, et en réalité c'est ce que ceux qui notent, la Banque mondiale etc. évaluent.
Et ce sont des indicateurs.
Ah, ce sont des indicateurs. Ils ne vont pas, ils ne se demandent pas peut-être est-ce que les gens, voilà, dans leur poche, est-ce qu'il y a les conséquences. Ça ne fait pas partie des indicateurs qui sont pris
ça
en compte.
Ça ne faisait pas partie.
Bon, je suppose que...
Désormais, ça fait partie.
Okay. D'accord, disons-le, si désormais ça fait partie, c'est tant mieux. Et donc, maintenant, l'autre côté, ou bien de l'autre côté, qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on y gagne. D'accord. Et c'est normalement ça doit être la préoccupation de nos décideurs, de nos dirigeants et même des institutions qui nous accompagnent sur ce plan. Si ça fait partie, c'est bien. Parce que le pays a beau être riche, a beau avoir tout, a beau avoir les classements. Tant que nous, en tant que citoyens, on n'a pas les effets, on ne le ressent pas dans le panier de la ménagère, eh bien, nous, on va toujours soulever des critiques. Et il faut dire qu'à la fin, c'est celui qui apprécie mieux le travail qui est fait, c'est nous en tant que population. Les institutions sont extérieures à nous. Donc c'est nous qui apprécions, c'est nous qui savons ce que nous vivons. Donc ça aussi, ça doit arriver. Mais l'un ne peut pas aller sans l'autre aussi. S'il n'y a pas de réformes, s'il n'y a pas donc des efforts sur le plan, donc sur l'environnement même économique de notre pays, et rien ne va évoluer. Et je sais aussi que ce sont des choses qui vont très lentement. Ces changements ne viennent pas de façon brusque. Les gens vont se dire aujourd'hui qu'on ne ressent rien. Et moi-même, je l'ai dit à leur place. Mais je comprends aussi qu'on a besoin du temps pour que tout se mette en place. C'est pour seulement attirer les investisseurs. C'est pour attirer des gens qui vont venir créer des richesses. Et c'est à partir de ce moment que nous allons certainement ressentir ça dans nos poches.
Alors, Francisco, est-ce que vous avez vraiment l'impression que ça se ressent dans nos poches, ces classements?
Non, je crois que Olivier a déjà, hein, de façon diplomatique, a tout résumé. En fait, c'est bien, les indicateurs. Ça nous permet, même quand on élabore des projets, à les mettre dedans. Et puis, comme ils l'ont dit, ça attire également les investisseurs potentiels. Mais je me dis que le Togo a tellement reçu de prix que normalement, là où nous sommes, là aujourd'hui, on ne devait plus être. Parce qu'on a eu toutes les satisfactions, on a eu les bons élèves dans tous les domaines, dans les réformes. Oui, ça va attirer les investisseurs. Mais lorsque l'investisseur arrive, l'investisseur se rend compte qu'au fait, ce n'est pas aussi beau ce climat des affaires. Quand les gens sont là, veulent même déjà des commissions sur des intentions de projet. D'accord, je parle de la corruption.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des phasages entre les indicateurs de la Banque mondiale et les conditions de vie des populations?
Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le constat sur le terrain. Parce que aujourd'hui, vous avez votre entreprise. Moi, j'en ai créé, je sais pas combien j'ai aujourd'hui d'entreprises, mais je cherche les marchés, je n'en trouve pas. D'accord? Et c'est pour beaucoup de Togolais. Regardez toutes les entreprises de presse qui sont créées. D'accord. Toutes ces entreprises ont des problèmes aujourd'hui. D'accord. Et puis, je dis que quand nous interrogeons nos indicateurs, par exemple, je prends par exemple la Régie nationale des eaux du Togo, qu'on a primé meilleure entreprise, questionner les Togolais. Nous, on est en train de faire ce travail pour voir est-ce qu'ils sont satisfaits de la fourniture de l'eau. Est-ce que vous voyez? Et le climat des affaires, donc, comment on améliore le climat des affaires sans prendre des mesures préalables? Je donne un cas, par exemple, Ludia Ludic, par exemple, qui est fermé depuis un moment, et dont plus de 350 environ ses employés sont là en train de courir derrière la justice, derrière leurs droits,
qu'on n'arrive pas à les payer. Mais quand vous voyez dans le fond, c'est que l'initiateur du projet, c'est-à-dire le Blanco, qui a vu le climat des affaires, qui est arrivé, quand il a créé l'entreprise, il n'y a aucun suivi. Il rapatrie tout, systématiquement. Et en fin de compte, les caisses sont vides. Est-ce que vous voyez? Voilà un cas. La justice, vous ne pouvez pas compter sur la justice. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas de mesure pour bloquer, n'est-ce pas, les capitaux sur place. D'accord? C'est quand il y a un problème qu'on se rend compte que, voilà, l'investisseur qui est venu, avec un trollé d'ailleurs, c'est plutôt quelqu'un qui est venu détourner notre économie. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, quand vous questionnez les Togolais de la diaspora, c'est parce que nous ne sommes pas proches, par exemple, de l'Europe et que nos pirogues ne sont pas sur la mer. Mais vous voyez, des Togolais sont dans le Texas, en train de vouloir rentrer aux États-Unis. Est-ce que vous voyez? Ils sont dans le désert libyen. Mais le Mali, le Niger, qui sont le Burkina, qui sont des pays en difficulté. Mais aujourd'hui, quand on vous dit la masse de Togolais, c'est mois d'août, là, jeune août, mais la masse de Togolais qui est en train de partir ou qui est partie. Mais les gens nous posent la question. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait, il a dit quoi? Transformation structurelle. On est en train d'en parler depuis. L'agriculture ne peut pas retenir parce que l'agriculture n'est pas rentable. Sauf certains plants qui sont un peu rentables, qui étaient rentables comme le soja. Et on s'est jeté là-dedans pour tuer le secteur. Le maïs, vous allez le cultiver pour vendre à combien? Vous voyez? Donc, voilà des choses sur lesquelles nous devons travailler. Et non à l'exhibition des titres, à l'exhibition des classements. Bon, c'est peut-être que ça arrange certains.
Olivier?
Non, je crois que le Togo n'est pas le seul pays à être classé. Et les autres pays qui ont été classés aussi en ont parlé, d'accord? Et ce n'est pas le Togo aussi qui s'est classé lui-même. On l'a classé, d'accord. Donc, on ne peut pas dire que finalement c'est le Togo qui fait son choix et qui crie donc sur tous les toits. C'est vrai ce qu'il a dit en partie, mais il ne faut pas aussi occulter le fait que nous avons, le monde entier a connu deux crises successives. Je me rappelle qu'avant 2020, c'est-à-dire avant la crise de la Covid et après la crise ukrainienne, il y avait quand même tout ce que et l'État faisait comme effort. On avait commencé par ressentir ça timidement. D'accord? Même sur le plan social, il y a eu des politiques ambitieuses, moi je dirais, qui ont été mises en place par le Togo. Et pratiquement seul le Togo a eu ces politiques-là. Parce que nos partenaires, les institutions de Bretton Woods, sont opposés à ce qu'on aide socialement les gens, leur envoyer de l'argent, tout ça là. Ils sont opposés. Ok, mais le Togo l'a fait quand même. Ok, ça, il faut le noter. Et cette politique est en train de se poursuivre. Mais la crise de la Covid a beaucoup fait mal au monde entier. Certains pays, même les plus grands, aujourd'hui, sont en train timidement de reprendre, de redécoller. Donc, il ne faut pas aussi occulter ce fait-là qu'il y a eu des faits extérieurs, donc des crises extérieures, des contingences qui ont aussi agi sur ce qui se fait comme travail. Mais l'essentiel, c'est que la volonté y est et qu'on reprenne pratiquement zéro ce qui était déjà fait et qu'on ait un peu de patience pour évoluer.
C'est bien?
Non, seulement, je ne suis pas d'accord avec ce que Francisco a dit, peut-être même pas avec ce que Olivier dit. Alors, le rapport Doing Business, c'est pour le monde entier. Alors, quand on vous classe, vous êtes un pays dans lequel c'est facile d'entreprendre, c'est de la promotion pour le pays, c'est une promotion internationale. Et vous verrez, quand le président de la République, par exemple, ou des membres du gouvernement sortent, disent, mais nous sommes l'un des pays dans lequel c'est facile d'entreprendre. Venez investir chez nous. Donc, c'est un outil de promotion du pays. Et plusieurs pays auraient bien voulu être bien classés parce que ça vous permet d'attirer l'argent. Mais quand vous allez aux États-Unis, vous voyez les investisseurs chinois, japonais, tout ça, vous criez. L'économie américaine, ce n'est pas les Américains qui sont les plus gros investisseurs. Donc, partout dans le monde, on veut que les gens viennent investir. Et cet argent qui vient, aujourd'hui, si l'OTR arrive à mobiliser plus d'un milliard et mille milliards et tout ça, c'est parce que des gens entreprennent et paient des impôts. Donc, si les gens n'investissent pas, les entreprises ne vont pas payer. Donc, nous gagnons de l'argent. Et l'objectif, ce n'est pas forcément les étrangers. Il y a aussi les investisseurs locaux. Vous verrez que les gens créent des entreprises régulièrement, hein, des dizaines de milliers. C'est vrai qu'il l'a dit, ce n'est pas toutes qui prospèrent. Mais vous verrez que partout aujourd'hui, y compris les Togolais, entreprennent ce qu'on ne voyait pas avant. On voit le commerce dans les mains des Libanais, des Nigérians, des Nigériens, des étrangers. Mais aujourd'hui, vous voyez les Togolais aussi investir, parce que c'est facile d'investir et ils paient des impôts. Donc, c'est ça qui enrichit donc le pays. Quand nous voyons, je vous dire, c'est des rapports qui sont très importants, à mon avis, surtout que ce n'est pas le Togo qui l'organise. Et c'est un outil de promotion du pays. Et aujourd'hui, quand le Togo dit on veut mettre en place le plan national de développement, mais à 60 à 70% pour financer ce plan, le pays compte sur des investisseurs, qu'ils soient étrangers ou locaux. Ça veut dire que l'investissement est toujours important. Venez faire les affaires chez nous, il n'y a pas trop de contraintes. Et ce qui est vrai, aujourd'hui, vous voulez aller créer votre entreprise, quand il s'agissait de créer les entreprises de presse. En janvier dernier, où il y avait la date limite, il y avait des journalistes. Aller aujourd'hui prendre leur carte de création d'entreprise l'après-midi. Mais il y a 10 ans, pour avoir ce papier-là, vous prenez des mois et des mois au point où vous êtes forclos par rapport à... Donc, je crois que c'est des choses à encourager. Après, ce n'est pas une enquête diligentée par le Togo pour dire, bon, le Togo fatigue les gens avec ses bons scores. Mais quand c'est une institution qui est la banque des pays, la Banque mondiale, c'est cette banque-là qui prête de l'argent et qui surveille les économies. Il n'y a pas un seul pays qui fait son budget.
Oui, le problème, c'est que on se dit, mais c'est quoi l'impact alors de ce classement dans l'assiette alors du citoyen?
Voilà, justement, c'est pour ça qu'avant, c'était doing business. Maintenant, c'est business ready, be ready. La Banque mondiale elle-même se rend compte qu'il ne faut pas seulement évaluer la facilité de faire les affaires, mais il faut évaluer aussi l'impact sur la société. Ça veut dire qu'on encourage aussi les États à faire en sorte que ces investissements-là aient un impact réel. Le premier impact d'un investissement, quand quelqu'un vient investir, créer une entreprise, il fait de l'argent et il emploie les gens. Ça, c'est important. Quand on voit aujourd'hui, on met en place la plateforme industrielle d'Atletico, puis on appelle les gens à venir s'installer, c'est que l'État gagne prioritairement, c'est que les jeunes trouveront à faire. Secondo, ceux qui font l'argent au Togo, une partie de cet argent va rester au Togo sous diverses formes. Peut-être que Francisco dira qu'une bonne, une grande partie est expatriée, ce qui est normal, mais je pense que c'est l'occasion que les nationaux mêmes investissent dans leur propre pays parce qu'il y a de réelles opportunités. On ne peut pas laisser tous ces pans-là aux étrangers. On se plaint aujourd'hui, vous allez à Sigam, mais vous vous plaignez, il n'y a que les étrangers. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous n'allons pas occuper ces secteurs-là. Il faut que les Togolais commencent par s'intéresser.
Chers confrères, nous allons quitter le sujet.
Pascal, oui. Ce sujet, nous l'avons abordé, Tampa Express l'a déjà abordé depuis des précédents numéros. Il y a l'être et le paraître, d'accord. Nous sommes plus dans le paraître. Mais je note quelque chose chez... aujourd'hui, chez les Togolais, ce n'est plus la grève générale et illimitée qui a retardé le Togo, mais le discours a évolué. Maintenant, c'est la Covid.
Nous savons que c'est vrai.
Mais des pays ont été sanctionnés. Je prends le cas de la Russie. Dans le temps des pubs, la Libye avait été, disons, mis sous embargo, mais ça n'a pas empêché Gaddafi à l'époque, n'est-ce pas, de faire le développement de son pays. Donc la Covid, quand la Covid est arrivée, nous avons, même dans nos réflexions, nous avons demandé que c'était le moment pour nous, d'accord, de produire ce que nous consommons, d'accord, de nous réinventer. Voilà. Mais on ne l'a pas fait, donc maintenant c'est la Covid qui est devenue le tueur de nos efforts.
Minute, quelques secondes. Quand j'écoute mon confrère dire que l'agriculture, c'est pas pour les pauvres, je suis un peu déçu. Il n'y a pas d'activité qui n'est pas pour les pauvres. Tout le monde peut aller cueillir et réussir dans tous les domaines. Il ne faut pas décourager les gens. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des potentialités réelles. Quand les gens se plaignent qu'ils n'ont pas du boulot, mais plusieurs ne veulent pas. aller à la terre. Et si nous leur disons que l'agriculture n'est pas rentable, alors que véritablement aujourd'hui on est en train d'avoir pas des paysans mais des entrepreneurs agricoles, parce qu'ils commencent par en faire des entreprises qui sont plus rentables, ce qui est vrai. Donc moi, je crois qu'il vaut mieux encourager ceux qui n'ont pas d'argent.
J'ai donné mes raisons.
Non, c'est pas la raison.
Pour que l'agriculture évolue.
Même quand vous n'avez pas.
Attendez.
Même quand il parle de mécanisation.
Vous avez parlé de moi. Il faut que je suis vivant devant vous. D'accord. Et vous savez, j'ai dit que aujourd'hui notre l'agriculture, ce n'est plus pour les pauvres. Parce que pour faire l'agriculture aujourd'hui, on a besoin des moyens. C'est de ça qu'il est en train de parler, l'entrepreneuriat agricole. Non, comment vous pouvez continuer avec la daba, les roues, les machettes? Vous ne pouvez pas faire qu'un jardin. Non. Ce n'est pas un champ. Donc, pour faire une agriculture qui va pousser une transformation structurelle, c'est-à-dire que de l'agriculture de choses à la transformation... Il faut mettre les moyens. Ouais. C'est de ça que nous parlons.
Oui, mais
c'est de ça que nous parlons.
Le sujet est intéressant, mais nous allons quitter le sujet rapidement.
Même si on met les moyens, c'est au moins les moyens à la disposition de ceux qui sont déjà sur le terrain en tant qu'agriculteurs, qu'on qualifie aujourd'hui de pauvres. Mais il faut quand même les soutenir.
Ils ne sont même pas pauvres.
Non, ils ne sont même pas en qualifié.
Non, il faut arrêter de dire qu'ils sont pauvres. C'est une erreur qu'on reste en ville et qu'on croit que les gens qui sont dans les champs sont pauvres. C'est vraiment une erreur.
Alors, c'est intéressant le sujet, mais nous allons rapidement quitter le sujet pour nous transporter au Gabon, pour parler alors du coup d'État au Gabon et aussi les derniers développements alors de cette situation. Alors, depuis hier, il y a l'opposant qui a été même d'ailleurs à cette élection sous la bannière alors de la plateforme de l'opposition du Gabon, Albert Ondo Ossa, qui demande même d'ailleurs au Poutis alors de recompter les voix pour que du moins sa victoire entre griffes lui soit donnée. Et aussi déjà à partir de lundi, il est dit que le général Nguema va prêter serment alors devant la Cour constitutionnelle qui sera rétablie rapidement pour l'occasion. Alors, Francisco, quand on voit ces développements alors de la situation au Gabon, on dirait tout simplement que le coup d'État est consommé déjà.
Oui, le coup d'État est déjà consommé et est soutenu d'ailleurs par l'Union africaine, c'est-à-dire que les organisations de notre Afrique.
Mais l'Union africaine a condamné quand même le coup d'État et suspendu même d'ailleurs le Gabon.
Oui, ça c'est pour peut-être dire que bon, qu'on a fait pour contre le Niger, pourquoi laisser le Gabon? Sinon, ce qui aurait été fait. Et vous voyez, malheureusement également, là, les gens qualifient déjà les élections là que élections erronées. D'accord, pour l'appeler le langage évolue. Sinon, cette élection, il fallait s'en tenir au vrai résultat, c'est-à-dire que refaire véritablement les décomptes et proclamer le bon résultat. Maintenant, le fait de dire que le général là va prêter serment, je peux dire que ça fait un coup d'État dans un coup d'État, comme on l'a dit pour le Burkina. Parce que vous dites qu'une élection est mal faite, on est presque arrivé à la fin du processus. Maintenant, vous faites un coup d'État, vous prêtez serment. Donc, on laisse de côté ces élections, on veut recommencer par zéro. Donc, si les gens parlent de révolution de palais, je crois qu'au Gabon, tout le monde sait, tous ceux qui sont autour du pouvoir, tous ceux, c'est les mêmes familles, cousins ici, mari de l'autre, et où les choses sont tellement mélangées. Peut-être les gens ont vu un autre danger venir et ils ont préféré laver leur linge sale en famille, voilà. Bien sûr avec le soutien de la communauté internationale.
Nous sommes rejoints par Monsieur Boussa Maoulé. Vous êtes alors le président du mouvement international pour les États-Unis d'Afrique. Bonjour.
Bonjour, cher ami. Bonjour.
Voilà. La situation au Gabon, vous, en tant que déjà quelqu'un qui est engagé pour les États-Unis d'Afrique, quelle lecture vous faites alors de cette situation?
Je pense que on l'a dit sur ce plateau il y a peu de temps. Il y a trop de coups d'État maintenant en Afrique. Et on s'étonne que les populations donnent carte blanche aux coups d'État. Il y en a de trop. Et si, juste au lendemain d'une élection, on fait un coup d'État, ça veut dire que l'énergie, l'argent qu'on a mis dans cette affaire d'élection-là, c'est du gâchis. On ne peut pas faire tout cela et finir par un coup d'État.
Mais s'il y a un coup d'État et que les populations applaudissent, alors ce coup d'État, il y a sûrement une cause.
Mais je pense que quand vous voyez la campagne au Gabon, ce ne sont pas des moutons qui suivaient les Bongo. Ceux qui le suivaient étaient des hommes. Ils n'avaient pas le pistolet à la tempe avant de venir au meeting organisé par le président. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent plus s'exprimer dans la rue aujourd'hui parce qu'il y a les hommes qui parlent. Quand les hommes parlent, tout le monde se tait, vous comprenez? Donc à un moment donné, il faut qu'on se pose une question. Les armes que les Africains se donnent pour se protéger doivent servir à protéger véritablement les institutions et tout. Je ne suis pas contre les coups d'État, mais je dis toujours que...
Pas contre, pas pour.
Oui, non, mais je dis toujours que ce n'est pas l'essentiel, c'est pas le coup d'État. Qu'est-ce qu'on fait du coup d'État? Ce n'est pas non plus la voie démocratique pour accéder au pouvoir. Mais quand il faut arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir-là? On a vu des militaires qui ont fait des coups d'État, qui ont brillé et qui sont rentrés par la grande porte dans l'histoire. Il y a des gens, des civils qui sont rentrés par la voie démocratique au pouvoir, mais qui sont sortis par la petite porte de l'histoire. Vous comprenez? Hitler est allé au pouvoir par les élections démocratiques. Et pourtant, il est devenu ce qu'il est. Il est dans la mémoire collective de tout le monde aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il y a trop de coups d'État en Afrique. On ne peut pas résoudre tous les problèmes de l'Afrique à partir des coups d'État. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, les militaires vont prendre les armes, descendre le pouvoir et tout. Non, c'est pas comme ça qu'on va construire l'Afrique du demain. Il faut qu'on s'arrête à un moment donné. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a expérimenté les coups d'État en Afrique. On en a connu. C'est comme on fait du business répétita. Une fois en passant, ça peut y arriver. Mais si on fait de cela la règle, ça va se passer à tous les niveaux. Et à tous les problèmes, on va faire des coups d'État. Ce n'est pas normal.
Olivier, déjà trop de coups d'État alors en Afrique, ça doit inquiéter.
C'est inquiétant. Moi, je l'ai dit ailleurs que c'est très inquiétant parce que notre continent est le seul aujourd'hui au monde où la dévolution du pouvoir se fait de plus en plus par la force des armes et les galons donc de ceux qui les tiennent. Et c'est dommage. Quelle image nous donnons au monde? Déjà, l'Occident et certains pays au monde nous considèrent comme des pays qui sont encore à un siècle où la lumière n'est pas encore arrivée. Mais, paradoxalement, nous sommes en train de confirmer que nous sommes trop en retard sur la marche du monde. D'accord? Et ce sont des faits réels. Aujourd'hui, vous avez des gens qui déposent des présidents légitimement élus. Et dans la rue, vous avez des citoyens qui applaudissent, même des docteurs, des gens, des intellectuels qui applaudissent des coups d'État. Ça pose un problème sérieux. Non, je n'ai pas encore terminé personnellement à moi. Maintenant, de l'autre côté, on me dira que les coups d'État interviennent dans une situation peut-être de blocage dans un pays. D'accord? Et que voilà, les gens n'ont que cette voix pour pouvoir débloquer les choses. Et est-ce qu'on a exploré d'autres voies? Je ne sais pas encore. Mais toujours est-il que les coups d'État n'ont jamais fait évoluer un pays, ni avancer un pays. Ça donne toujours un retard de dizaines d'années, parce qu'il faut, quand le pays va revenir sur le droit chemin, il faut reprendre à zéro. Donc c'est ce que moi je note.
C'est vrai que quand vous voyez ces gens-là qui applaudissent ces coups d'État hein, sur le continent, ils pensent tout simplement que c'est l'heure de la libération de l'Afrique.
Non, je pense qu'il y a beaucoup de manipulation dans cette histoire. Parce que je l'ai dit une fois quand on a fait le coup d'État à Kwame Nkrumah au Ghana, les gens sont sortis applaudir. Ils étaient contents. Mais aujourd'hui, on le cite comme l'un des panafricanistes. Mais ce n'était pas le cas. Les gens applaudissent. Ils ont dansé dans les rues à Accra. Donc, ce qui danse, ce n'est pas le peuple qui danse. C'est des gens peut-être qui ont d'autres intérêts à ce que les militaires prennent le pouvoir.
Mais au même moment, quand on appelle ces gens-là qui sortent d'habitude, c'est toute une population des gens qui sont nombreux dans la rue.
Ils sont nombreux, mais ils ne font pas la moitié des 800 000 Gabonais qui ont voté. Ils ne font même pas la moitié. Si on avait vu 800 000 Gabonais dans toutes les rues du Gabon, on pourrait dire bon, il y a plus ou moins unanimité autour du coup d'État. C'est dans tout le pays. Mais après, je crois que certains pouvoirs prêtent le flanc au coup d'État. Après aussi, il y a tous les arguments pour faire coup d'État dans tous les pays, hein, parce qu'il y a quelque chose forcément qui ne marche pas dans le pays. Vous verrez aujourd'hui au Nigeria, on vous parle de la vie chère, les gens meurent de faim là-bas, tous les prix ont grimpé. Demain, un militaire peut se lever et dire « mais on n'a pas élu Tinubu pour amener la misère dans le pays, il faut le dégager ». Les gens sortiront pour applaudir. Et on va dire « oui, on a libéré le peuple ». Mais ça ne correspond à rien. Prenez l'exemple de la France. Si Macron était africain, on l'aurait balayé depuis très longtemps. Vous avez vu les gilets jaunes, vous avez vu la loi sur la sécurité sociale et tout ça. Mais lui serait parti déjà deux coups d'État ou trois, l'aurait emporté déjà. Donc vous voyez, il y a des règles pour enlever les présidents, il faut les respecter. Maintenant, nous sommes dans une mode, les gens ont pris l'insécurité prioritairement, certains ont pris le troisième mandat. Au Gabon, on parle d'élections truquées. Et ce qui se passe au Gabon, il y a un double coup d'État. On a fait un coup d'État à Libongo et on fait un coup d'État à l'opposant qui a gagné, qui n'a pas encore pu réclamer sa victoire pour exercer. Il est victime aussi du coup d'État.
Mais pour le moment, rien ne montre quand même qu'il a gagné.
Oui, mais puisque les militaires disent que l'élection est frauduleuse, ils n'ont qu'à d'abord établir la vérité des urnes.
Et celui qui a gagné.
Eux, on dit, bon, c'est tel qui a gagné. Maintenant, si vous voulez, pourquoi ils ne veulent pas rétablir la vérité des urnes? Parce qu'ils veulent prendre le pouvoir du vainqueur. Donc, ils ont fait deux coups d'État enchaînés et on applaudit. Y compris, vous n'allez pas me dire que les partisans de l'opposant dans ça sont en train d'applaudir. Je ne pense pas. Ce à quoi ils s'attendaient, c'est qu'on rétablisse la vérité des urnes. Donc, ceux qui sont dans la rue ne représentent pas le peuple gabonais, à mon avis.
Merci beaucoup.
Oui,
rapidement.
Qu'est-ce que je... Bon, pour des précisions, si on a fait le coup d'État à Kome Nkrumah, c'est là où le pays, l'économie était arrivée à un niveau, comment l'appelle-t-on chose exécrable, d'accord. À l'époque, il aidait la Guinée avec l'argent du Ghana, alors que les gens avaient faim au pays. Maintenant, quand vous parlez de la France, c'est que la France s'est inscrite dans la tête des gens que Macron ne fera plus que deux mandats. Mais les coups d'État, n'échappent pas également à l'Occident. Regardez comment les présidents sont gardés. Mais la dernière fois, il y a eu tentative en Allemagne qui a été chose. Oui. Mais aux États-Unis, avec Donald Trump, il a agi comme un président africain. N'eût été les institutions fortes. Et Donald Trump allait continuer son pouvoir. Donc, ne dites pas que le coup d'État, c'est juste à l'ADN des Africains. Oui. Mais voilà.
Francisco, merci beaucoup, puisque nos auditeurs sont très impatients à entrer en ligne alors pour nous poser des questions et aussi des commentaires. Et donc, nous allons leur donner la parole dans un instant, mais nous allons faire un clin d'œil d'abord à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Retour dans cette émission Club de la Presse et vous comprenez que nous ouvrons maintenant à vous. Vous pouvez nous poser des questions ou également faire des commentaires sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. 22 21 33 74 91 36 63 75, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô. Oui, bonjour. Allô.
Comment allez-vous?
Ça va, et chez vous?
Ça va, c'est Karim, le taximètre.
Ah, Karim, allez-y.
Oui, j'ai une question pour Germain. Mm-hmm. Avant, si on disait de faire l'agriculture, tu vas, on quitte à l'homme. on va au village, on fait l'agriculture. Exemple, le soja était à 1000 francs. On nous a dit que le soja, l'année prochaine, ça va augmenter avec le soja. Tu retournes au village et tu perds un an ou bien un an et demi au village. Tu finis de faire ton soja. Et le moment d'envoyer tes produits au marché, on te dit que le soja est revenu à 300 francs. On a perdu ou bien on a gagné. Et maintenant, le gouvernement encore va revenir nous dire de retourner au champ. Non, ils se trompent quand même. Salomé, ici, nous tous sommes arrêtés. Bonne
émission. Décidément, vous avez répondu à votre question. 22 21 33 114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Oui,
bonjour, bonjour le plateau.
Oui, bonjour, c'est Didier.
Bonjour, oui, Didier.
Oui, Didier, allez-y.
Monsieur Pouli, comment ça va? Monsieur Pouli, j'ai l'impression que vos analyses sont à géométrie variable. Lorsqu'on vous écoutait la semaine passée sur la situation du Niger, ça a changé à ce que vous dites sur le Gabon, parce que c'est notre ami national. De toute façon, c'est un code de l'État, parce que, vous savez, on a tué le président Olympio, le président grâce auquel vous et moi nous sommes libres aujourd'hui là. On s'est dit, on l'a tué, personne n'a rien dit. Mais tant que les coups d'État, on soutient les coups d'État en Afrique, il y a toujours des coups d'État. Donc, les coups d'État, c'est que j'ai appris à proscrire, même que ce soit, que même partout, que ce soit dans toutes les raisons pour proscrire l'État. Si les militaires gabonais étaient aussi sincères là, ils allaient recompter et puis remettre le pouvoir au civil. Mais pourquoi ils veulent prendre ils veulent garder le pouvoir, faire la transition? Ils n'ont qu'à appliquer les gens pour qu'on puisse savoir qu'ils sont aussi sincères, que ce n'est pas une révolution de palais qu'ils ont fait. Donc, j'ai fini, M. Pouli. Je dis bonjour à l'homme de Bassala, l'homme de Tampa.
Francisco, il vous écoute. Oui. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô.
Monsieur.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien.
Le nom c'est
Yoshua.
Yoshua, vous nous appelez de quel quartier?
Oui, Zanguera.
Zanguera, allez-y.
Oui. Non, moi c'est pour dire que les coups d'État vont continuer tant que la communauté internationale va toujours soutenir les putschistes, c'est ça. Ils le soutiennent. C'est-à-dire, au lieu de sanctionner les putschistes, ils sanctionnent les pauvres populations. Qu'est-ce que moi je propose? Il suffit de dire, mais qu'on fait encore des coups d'État, les enfants qui sont dans les pays occidentaux, les jeunes, ils ne prennent pas de vision, même s'ils rétablissent après là, ils n'ont plus la possibilité de voyager dans aucun pays du monde entier. La loi vient fermer là, et on verra. Mais tant qu'ils vont freiner les gens, on dit qu'il n'y a pas de courage. Mais est-ce qu'ils ont courage chez eux? Ils ont courage, ils ont la nourriture, ils ont l'argent chez eux. Non, mais il faut qu'ils soient sérieux, c'est tout. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. 22 21 314. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
Le nom c'est?
Sylvain.
Oui, Sylvain. Sylvain, allez-y.
Oui, pour le prix de du business.
Oui.
Effectivement, moi je veux savoir sur quel critère ce monsieur se base. Si c'est pour la création d'entreprises, au CFE là-bas, c'est à la minute. Là, on peut applaudir. Mais les effets de ces créations-là, est-ce que ces entreprises durent dans le temps? Les critères, on devait nous définir les critères.
Et je pense qu'il y a les critères qui sont bien définis, hein.
Et sur le rapport.
Oui, il y a des indicateurs. Justement, il y a des indicateurs. Et il suffit tout simplement alors de voir même sur le site de la Banque mondiale et tout. Vous aurez quand même l'essentiel alors de ces critères.
D'accord, je vais vérifier. Et pour le Gabon.
Oui.
C'est un coup d'État, un semblant coup d'État. Pourquoi le monsieur a attendu jusqu'aux élections avant de dégommer son cousin ou bien son neveu, je ne sais pas. C'est la famille. Il n'aurait pas dû faire ce coup d'État après une élection, à coup des milliards. Mais c'est fou, ça.
Sylvain, merci. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? 22 Allô? 21. Allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, comment vous allez?
Oui.
Oui, votre nom?
C'est Raphaël.
Raphaël, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Assibito.
Assibito, Raphaël, allez-y.
Oui. Moi, je veux dire ceci. Au fait, les coups d'État militaires ne sont que le dernier recours d'une population qui n'a que ce moyen. Je crois que les militaires n'ont que ne sont que les porte-parole de la population, de cette majorité de population, qui est délaissé et que, qui subit tous les coups d'État constitutionnels successifs. Qui, vous parlez des autres pays dont les présidents sont à leur quatrième mandat, mais vous contournez le Togo, vous n'appelez pas le Togo. Mais depuis que le président a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays et que la majorité est restée dans la misère et la pauvreté, depuis là, qu'est-ce que le président a fait pour que cette minorité puisse laisser la majorité jure aussi des richesses du pays? Mais quand les choses perdurent et que la population, cette majorité est dans la misère, vous voulez qu'elle fasse quoi? Alors, les militaires, quand ils voient les militaires mettre fin à des pouvoirs comme ça, ben, tout de suite, les gens vont sortir dans la rue pour acclamer. C'est logique. En attendant de voir la suite de ce que ça va sortir.
D'accord, Raphaël, merci beaucoup. Je pense que Raphaël, c'est notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce vendredi. Et nous revenons au plateau. Alors, Germain, vous avez écouté quand même vos compatriotes qui ont dit beaucoup de choses concernant surtout les coups d'État et aussi cette question également de Biredi que nous avons dit parlant des climats des affaires. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cela?
Bon, écoutez, chacun a sa position sur le sujet. Je respecte leur position. Moi, je dis ce que je pensais. Mais après, je crois que aujourd'hui, certains applaudissent. Mais dans 15 ans, 20 ans, c'est leurs enfants qui devront descendre dans les rues pour réclamer la liberté, la démocratie auprès de ces militaires-là qui vont aller au-delà des transitions, faire 15 ans, 20 ans comme les militaires d'après les années 60, donc, qui ont sauté la plupart des pères de l'indépendance. Donc, c'est la démocratie qui est en péril. Or, nous convenons que c'est un bon modèle, la démocratie. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est un bon modèle, en tout cas pour l'instant. Il fait plus ou moins l'unanimité dans le monde et ceux qui l'exercent ont des bénéfices, même si tout ne va pas bien. Il y a quand même l'essentiel et aujourd'hui c'est un peu triste hein, qu'on arrive à avoir un continent qui est sur le point d'être dirigé par des militaires hein, dans plusieurs pays. La contagion continue, on espère que ça va s'arrêter. C'est vrai aussi qu'en même temps c'est un signal pour certains chefs d'État qui ne tiennent pas compte des aspirations de leur population. Mais en même temps, c'est pas le rôle des militaires de bousculer l'ordre constitutionnel, de prendre le pouvoir, de l'exercer et d'avoir des ambitions. Vous verrez, la plupart vous proposent des transitions de 3 ans, 4 ans et plus, malgré la pression des communautés. Et donc, c'est un peu triste. Maintenant, sur l'agriculture, je pense qu'il y a des réformes qui se font, il y a les arbres qui sont aménagés, il y a la mécanisation qui est assez avancée avec les centres régional de mécanisation qui sont là. Il y a des instituts de formation dans le cadre de l'agriculture, de l'élevage, de la fête. Des étudiants vont apprendre et ils vont être pratiques. Et je crois que les signaux sont bons. Il faut encourager les jeunes à s'investir dans l'agriculture parce que, à mon avis, elle va être plus rentable que plusieurs activités commerciales.
Olivier?
Oui, merci. Je crois que la question des coups d'État se pose. Est-ce que nous, en tant que citoyens africains, nous voulons que ces coups d'État se perpétuent sur notre continent? Vous avez des coups d'État qui sont préparés dans des palais présidentiels hors du continent et qui sont venus être appliqués ici. Nous allons continuer par être des marionnettes, par accepter, c'est, je veux parler de nos soldats, par accepter que ça soit l'étranger qui nous manipule contre nos propres frères au niveau local. Je crois qu'il faut prendre conscience. Vous savez, ceux qui sont sortis pour manifester leur joie, je vous parie que dans 2 ans ou 1 an même, c'est les mêmes qui vont sortir pour dénoncer, pour se plaindre de la façon dont on gère. Bon, parfois, c'est ce qu'on on voit sur le terrain. Donc, il est facile de sortir et de dire que le peuple est sorti. Mais c'est le même peuple qui sortira pour aussi être condamné, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce que voilà, les choses ne vont pas bien. Donc, il faut vraiment trouver une solution à cette question.
Et il faut vraiment trouver une solution à cette question. Monsieur Bossa?
Oui, mais vous savez, en réalité, on ne peut jamais gouverner sans faire des frustrés. Et donc, il faut savoir que la frustration est inhérente à la gestion donc, de la communauté, de la société.
il y aura toujours des gens qui seront heureux, des gens qui seront fâchés. C'est devant nous que les gens se sont soulevés contre...
Mais il faudrait quand même que la plupart ou la majorité soient heureux.
Oui, mais il n'y a pas, un jour qui nous permet véritablement de toucher la majorité dont vous parlez. C'est ça, voilà, l'abstrait qu'on n'arrive pas à considérer. Et donc, moi, je disais que c'est devant nous tous que les gens se sont soulevés contre le feu président libyen Mohamed Kadhafi, qu'il est dictateur, il a trop duré au pouvoir, il n'organise pas d'élections, machin et tout. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde, toute l'Afrique regarde la mort de ce monsieur-là. Vous comprenez? Donc, il faut que les Africains. D'ailleurs, l'éducation même que nous avons reçue jusqu'à aujourd'hui ne nous permet même pas d'envisager des choses de taille pour l'Afrique. Vous comprenez? Les Africains, moi, je ne sais pas quand est-ce qu'on m'a fait réciter ou citer l'allégeance à l'Afrique ou à ma patrie. Vous comprenez? Ailleurs, aux États-Unis, les gens, même à l'église, quand ils font le culte, à un moment donné, ils s'arrêtent, ils font allégeance. Ils récitent l'allégeance à la patrie. C'est comme ça. L'amour de la patrie, il faut mettre ça dans les gènes, dans la tête des enfants. Quand ils grandissent avec une loyauté envers leur pays. C'est ça le problème qui se pose. Et puis nous sommes dans un système politique qui n'a rien à voir avec nos pratiques. Nous avons notre façon de fonctionner en termes de démocratie. L'Afrique a sa démocratie qui n'est pas encore expérimentée véritablement. Il nous faut retourner à cela. Nous étions dans notre démocratie qui évoluait. Quand ils sont venus renverser tous les pouvoirs en Afrique, quand on renversait les rois, les grands rois que l'Afrique a connus, ce ne sont pas des anges, mais ils n'étaient pas non plus des diables, comprenez. Nous devions être dans notre processus, on allait élaborer un modèle qui va peut-être être meilleur à ce processus-là, parce que la cession, la transmission de pouvoir aujourd'hui fait plus de problèmes à l'Afrique qu'elle en résout.
Franco?
Non, ben, il a déjà dit, on n'étudie pas suffisamment nos valeurs. On nous a dit ici que Agokoli avait construit son mur avec le sang humain. À l'époque, combien il y avait dans son royaume et qu'il a laissé autant de sang pour qu'il pousse. Donc, on nous l'a fait paraître comme un mauvais. Et c'est comme ça, ça a été pour pratiquement tous nos rois. Et il appartient aujourd'hui à la jeunesse de prendre conscience de ce que ces gens étaient comme des hommes et femmes de valeur. Et ce qui vient de se passer au Gabon vient, je crois, donner encore du tonus aux gens qui ont fait le coup d'État au Niger, parce que la réaction de la communauté internationale vis-à-vis du Gabon n'est pas aussi vivace et atroce que ce qui avait été vers le Niger. Donc aujourd'hui, c'est les gens du Niger qui vont être contents parce qu'on leur fera désormais moins de pression. Ça veut dire qu'ils risquent de faire plus d'un an de transition. Ok. Pour Tampa Express de cette semaine, nous le conseillons beaucoup aux lecteurs, et même ceux qui n'ont jamais acheté Tampa Express, allez le chercher, parce que nous, comme nous parlons des valeurs africaines, nous avons même un article, un dossier spécial sur...
Merci beaucoup Franco, parce que on est en train alors de siffler la fin déjà de l'émission. Nous vous disons merci à vous tous qui nous avez suivis, merci beaucoup Pascal Aglico, alors d'être passé dans cette émission.
Merci. Je voudrais rebondir sur la question de l'agriculture en quelques secondes pour dire que sans la pratique de l'agriculture, aucun pays ne peut subsister au monde. Un auditeur a dit que nous ne devons pas encourager la jeunesse à retourner à la terre. C'est très important, mais il faut améliorer les conditions de travail. Nous avons de très bons partenariats avec des pays comme l'Israël et d'autres pays qui sont assez avancés.
Merci beaucoup Pascal, merci à vous tous qui nous avez suivis bien évidemment, et merci à Thomas Dativi qui a assuré la mise en onde, merci à Jérôme Dakucha, je suis Pascal Losso, on se retrouve le lundi.
Le coq a arrêté de chanter dans le village depuis que le tombeau sacré annonça l'orage.
Depuis les nombreux conseils des vieux sages et les rituels des marabouts au bord du rivage. La nouvelle fut dite par la plus vieille barbe, sous l'ombre du plus vieux témoin, le baobab. Notre souverain roi est malade, prions pour lui, car le malheur jamais ne tarde de frapper à la porte de l'inconnu, mais de sa majesté le roi qui de nous l'aurait cru. Il y a les forts, les faibles et les peureux. Il y a déjà ceux pour qui la santé du roi importerait peu. Il y a ceux qui craignent pour la population et ceux qui déjà sucent le sang de la succession. Le village avait changé de visage. Rien du futur n'annonçait un bon présage. Des notables aux griots jusqu'aux sages. Tous